La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une semaine destinée en particulier aux lycéens et lycéennes qui passent cette année le bac de français en première ou l'épreuve de lettres en terminale. Mais pas seulement à eux, bien entendu, puisque pour les trois premiers épisodes de notre série, vous pourrez reconnaître la facture habituelle de l'émission avec l'analyse de trois grandes œuvres de la littérature française qui font partie des plus données au bac durant ces dernières sessions. Hier, nous avons parlé de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec Jean-Yves Guérin, tandis que l'émission de lundi était dévolue à Madame Bovary de Flaubert qui vend Leclerc à analyser pour nous. En revanche, demain, l'émission sera bien différente puisque ce sera le temps de la remise des copies. Nous avons en effet posté sur les réseaux sociaux de l'émission un texte de Zola à commenter et un sujet de dissertation afin que ceux qui le souhaitent puissent s'entraîner en amont et comparer leurs idées avec celles de l'équipe d'étudiants et de professeurs que nous réunissons donc demain. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous parlons d'Hernani, de Victor Hugo, qui marque un moment important dans l'histoire de la littérature française. Et nous sommes pour ce faire avec Olivier Decroix, agrégé de lettres modernes, enseignant en classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV à Paris. Auteur avec Marie de Gand de l'essai intitulé « Le romantisme » dans la série « En perspective » des éditions Gallimard. Gallimard, où il a édité aussi dans la collection Folio Plus Classique cette célèbre pièce de Victor Hugo, Hernani, qui dès sa première, le 25 février 1830, avait provoqué l'enthousiasme du public suivi de troubles à l'ordre public. Une pièce dont les enjeux feraient presque oublier le contenu. Nous allons donc nous remettre dans l'oreille le ton de la pièce elle-même avec cet extrait de la première scène de l'acte 1 et le portrait que fait de lui-même le personnage d'Hernani.
Je n'ai reçu du ciel jaloux que l'air, le jour et l'eau, la dot qu'il donne à tous. Or, du duc ou de moi, souffrez qu'on vous délivre, il faut choisir des deux, l'épouser ou me suivre.
Je vous suivrai.
Parmi mes rudes compagnons, proscrits dont le bourreau sait d'avance les noms, gens dont jamais le fer ni le cœur ne s'émousse, ayant tous quelque sang à venger qui les pousse, vous viendrez commander ma bande, comme on dit, car vous ne savez pas, moi, je suis un bandit. Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagnes, seul, dans ces forêts, dans ces hautes montagnes, dans ces rocs où l'on n'est que de l'aigle aperçu, la vieille Catalogne en mer m'a reçu. Parmi ces montagnards, libres, pauvres et graves, je grandis, et demain 3000 de ces braves, si ma voix dans leurs monts fait résonner ce corps, viendront vous frissonner. Réfléchissez encore. Me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves, chez des hommes pareils aux démons de vos rêves, soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit, dormir sur l'herbe, boire au torrent, et la nuit entendre, en allaitant quelque enfant qui s'éveille, les balles des mousquets siffler à vos oreilles, être errante avec moi, proscrite et s'il le faut, me suivre où je suivrai mon père. À l'échafaud.
Je vous suivrai.
Bonjour Olivier Decroix.
Bonjour.
Alors suivre ce bandit, cette Hernani, vivre à ses côtés, ce n'est pas de tout repos. Lui-même en a conscience, comme on vient de l'entendre, dans ce dialogue qu'il entretenait avec Donia Sol. Qui est Hernani ?
Alors Hernani, justement, c'est celui qui poursuit le meurtrier de son père. Et dans ce drame, tout le monde se poursuit, ou tout le monde essaye de se suivre. Mais tout le monde ne veut pas être suivi non plus. Dans ce qu'on vient d'entendre, Hernani représente, essaye de faire imaginer à Donia Sol ce que serait l'enfer de le suivre dans sa résistance, hein, dans le maquis en quelque sorte. Et il l'enjoint justement à ne pas le suivre. Et pourtant, elle veut tout le temps le suivre. Et on a entendu justement qu'il lui disait « s'il le faut me suivre, là où je suivrai mon père, c'est-à-dire dans la mort. » Hernani, c'est qui ? C'est un peu l'intrigue de cette pièce, puisqu'il faut attendre, si je peux le révéler, attendre le quatrième acte pour connaître l'identité véritable de ce proscrit, de ce bandit, comme il vient de nous le dire. Identité véritable qui est tout sauf celle, évidemment, d'un proscrit ou d'un homme du peuple, puisqu'il s'agit de Don Juan d'Aragon. Don Juan d'Aragon qui récupère à la fin de l'acte 4 toutes ses bastilles, comme il dit, son château et tous ses biens. Hernani est donc d'emblée, on peut le dire, un être double, hein, à la fois proscrit et aristocrate.
Mais alors, au cinquième acte, le personnage de Don Ricardo résume l'intrigue par une sorte de raccourci parodique. Trois galants, un bandit que l'échafaud réclame, puis un duc, puis un roi, d'un même cœur de femme font le siège à la fois, l'assaut donné qu'il a, c'est le bandit.
C'est un sous-titre auquel Hugo avait pensé. Le sous-titre qu'il a gardé, c'est l'honneur castillan, on y reviendra peut-être. Mais le sous-titre auquel il avait pensé, un sous-titre espagnol, qui résonne donc avec le titre de cette pièce qui lui-même nous renvoie dans une Espagne un peu fantasmée de Hugo. Hugo, enfant, qui traverse un village au Pays Basque qui s'appelle Hernani sans H et auquel il va ajouter un H.
Pour rappeler que Hugo connaît très bien l'Espagne puisqu'il a accompagné son père
dans les campagnes napoléoniennes, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, le paysage espagnol, ici, apparaît dans ce sous-titre donc, auquel Hugo avait pensé, « Tres para una », trois pour une, hein, et donc ces trois hommes, ce sont un vieillard, dont Ruy Gomez, qui par certains aspects nous rappelle Arnolf dans l'école des femmes, puisqu'il est vieux, mais il veut absolument épouser sa nièce, Donia Sol. Et puis un autre homme, dont Carlos, qui va devenir à l'acte 4 Charles Quint. D'ailleurs, Hugo avait pensé encore à un autre sous-titre, La jeunesse de Charles Quint. Et le troisième homme, donc celui qui l'emporte, c'est le bandit, c'est Hernani.
Mais est-ce qu'il l'emporte réellement, puisque on va encore dévoiler la fin davantage, puisque Hernani meurt, il se donne la mort pour respecter finalement une dette d'honneur.
Alors, effectivement, c'est ce qui constitue aussi un scandale, si on peut dire, c'est que on héroïse dans cette pièce des individus qui sont conduits à l'échec, puisque Hernani comme Donia Sol vont trouver la mort au moment où Don Ruy Gomez, le vieillard, fait sonner le cor de chasse qu'Hernani lui a confié. Pourquoi ce petit air de musique que Donia Sol appelle de tous ses voeux précipite-t-il la mort des amants? La mort des amants comme thème littéraire d'ailleurs sur lequel on reviendra peut-être parce que à l'acte 3, quand Hernani poursuivi, sa tête est mise à prix, poursuivi par les hommes du roi, par les hommes de Don Carlos, se réfugie ou trouve refuge déguisé en pèlerin dans le château de Don Ruy Gomez, au moment même où Don Ruy Gomez va épouser Donia Sol. Hernani se découvre aux yeux de Don Ruy Gomez dans une scène très pathétique où le vieillard comprend que Donia Sol ne l'aimera jamais Et au lieu justement de livrer l'hôte, au lieu de livrer le bandit au roi, à Don Carlos, il va le cacher. Il va le cacher derrière un portrait, son propre portrait, dans une galerie des portraits de ses ancêtres et de lui-même. Il va le cacher par honneur castillan, on y revient. Et Don Carlos repartira à peu près bredouille, si l'on peut dire, je dis à peu près, puisque Don Carlos, pour se venger du vieillard, emporte Doña Sol avec lui. À partir de là, donc, Don Ruy Gomez fait sortir Hernani de sa cachette, et une discussion s'engage entre les deux rivaux, qui va aboutir à un pacte très faustien d'ailleurs, où les deux s'accordent pour se venger, tuer Don Carlos, dans une conspiration qui n'aboutira pas, et le vieillard demande à Don Carlos de lui promettre sa vie, de lui remettre sa vie en gage, et Hernani lui donne comme signe de sa promesse son corps, évidemment le jeu de mots.
C'est une attitude un peu romantique alors, finalement, c'est même une intrigue qu'on pourrait qualifier de romantique, puisque c'est quand même ça le sujet finalement de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'éruption avec la bataille d'Hernani, et on va voir un peu comment, avec vous Olivier Decroix, de ce qu'on a appelé le romantisme, de ce qu'on appelle le romantisme.
Alors, est-ce que l'intrigue est romantique ? C'est une vraie question. On y retrouve quand même beaucoup d'éléments qui appartiennent à une tradition littéraire. Un jeune homme qui doit venger son père, on songe quand même au Cid de Corneille. On peut songer aussi à Hamlet. On peut même remonter encore plus loin dans l'Antiquité, songer évidemment à Oreste et à la tragédie d'Eschyle. D'autres éléments, comme je l'évoquais tout à l'heure, le barbon et la jeune fille qui n'a évidemment pas l'âge du barbon, rappelle Molière, rappelle l'école des femmes, et la mort des amants pourrait nous rappeler des situations qui sont celles qu'on trouve chez Ovid dans Pyramétis B, la légende de Pyramétis B, ou encore même dans Tristan et Iseut. Donc je ne peux pas dire que cette intrigue soit absolument romantique. En revanche, ce que Hugo va en faire peut se concevoir comme étant romantique.
C'est même un drame romantique, nous dit Victor Hugo. Qu'est-ce que c'est qu'un drame en réalité ? Qu'est-ce que ça recouvre exactement que ce mot ?
Alors, bien des théories ont été élaborées et il faut citer ici évidemment la théorie que Hugo lui-même nous offre à travers une préface, un drame historique qu'il n'a pas réussi à monter pour cause, il y a plus de 7000 vers dans ce drame, qui s'intitule Cromwell, hein, qui rappelle un épisode de l'histoire anglaise du XVIIe siècle. Et dans la préface de Cromwell, en 1827, Hugo essaye de théoriser ce qui, pour lui, est le drame romantique. Il n'est évidemment pas le seul à penser ce qu'est le drame romantique, on y reviendra peut-être, mais dans cette théorie hugolienne du drame romantique, Hugo rappelle, il adore, hein, alors qu'il a encore que 25 ans, mais il adore ces grandes envolées, ou ces survols, et il rappelle, ou il imagine plutôt que l'histoire de la littérature est ainsi faite que trois périodes la caractérise et qui correspondent comme par enchantement à trois grands genres, la poésie au temps primitif, l'épopée à l'Antiquité, et avec l'ère chrétienne surviendrait le drame. Alors ce qu'il appelle le drame et qu'il associe à l'ère chrétienne est intrinsèquement lié à la duplicité de l'âme humaine. Et il nous parle à ce moment-là de Shakespeare. Et ce qu'on peut retenir en quelques mots, c'est que le drame est résolument moderne, puisqu'il dit la complexité de l'âme humaine, il dit le mélange de l'âme humaine entre le grotesque et le sublime.
On écoute un extrait de cette préface de Cromwell, lu par Guillaume Gallienne.
En somme, nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré, profond et soudain, large et vrai. Sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin, plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille, fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre maître, inépuisable dans la variété de ses tours, insaisissable dans ses secrets d'élégance et de facture, fuyant la tirade, se jouant du dialogue, se cachant toujours derrière le personnage, s'occupant avant tout d'être à sa place, et lorsqu'il lui adviendrait d'être beau, n'étant beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et sans le savoir, lyrique, épique, dramatique selon le besoin, pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas, des idées les plus élevées aux plus vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus extérieures aux plus abstraites, sans jamais sortir des limites d'une scène parlée. En un mot, tel que le ferait l'homme qu'une fée aurait doué de l'âme de Corneille et de la tête de Molière. Il nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose.
Des auteurs sur France Culture. Alors, cette préface de Cromwell, Olivier Decroix, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de marche d'approche qui va finalement conduire à Hernani et à la bataille d'Hernani ?
Oui, en quelque sorte, mais j'aimerais revenir sur ce qu'on a entendu, cette promotion du vers dans le drame romantique, qui ne va pas du tout de soi, puisque le drame romantique a une ambition réaliste, je dirais, entre guillemets, bien sûr, une ambition de représentation de l'humanité dans son ensemble, des contextes historiques, des réalités qui font qu'il y a beaucoup de figurants dans un drame romantique. Alors pourquoi le vers ? Et on viendra à votre question. Pourquoi le vers, qui pourrait sembler justement, au contraire de la prose, assez peu naturel ? Ça, c'est une spécificité de Hugo, hein, si on songe par exemple au grand drame romantique Lorenzaccio de Musset, c'est en prose, ou même un drame romantique qui a beaucoup de succès quelques mois avant Hernani, c'est Henri III et sa cour de Dumas. Pourquoi le vers ? Parce que le vers, pour Hugo, précisément pourra, et on l'a entendu, pourra, dans une forme de modernité, rassembler tous les registres possibles. Il pourra accepter qu'on parle comme dans Hernani d'un manteau qui ruisselle ou d'un roi qui se cache dans un placard, comme il pourra accepter les beautés les plus sublimes. C'est ce qui aussi peut, justement, et j'en arrive à votre question, qui peut constituer une forme de scandale pour, disons, pour aller vite, les classiques ou les tenants, en tous les cas, d'un certain ordre dans l'art, puisque dans la préface d'Hernani, Hugo théorise justement cette liberté dans l'art. Ce qui choque beaucoup, ce qui constitue un scandale, c'est que le vers, mais pas seulement lui, l'alexandrin, mais pas seulement lui, que le théâtre puisse, sur scène, accueillir autant de registres, puisse se côtoyer à la fois le grotesque, le dérisoire et le pathétique le plus insistant, comme la poésie la plus lyrique. Et c'est ce qui peut-être entraîne de la part de beaucoup de spectateurs à l'époque une forme d'incompréhension et qui amène immédiatement au rire, puisque ce qui a été reproché à Hernani, c'est justement ce caractère tout à fait irréaliste et ridicule.
Donc pour Hugo, il va falloir forcer les portes de l'institution la plus prestigieuse, la plus conservatrice aussi, puisque c'est au Théâtre Français qu'il souhaite être représenté. Entre parenthèses, pourquoi ne pas aller finalement jouer sa pièce dans un autre théâtre ? Il y a chez Victor Hugo tout de même une volonté d'être reconnu aussi par l'institution, quand bien même il critique cette institution qui est le symbole du classicisme, le Théâtre Français.
Oui, alors c'est un peu une idée reçue parce que dès 1825, le nouvel administrateur de la Comédie-Française, le baron Taylor, a l'idée qu'il faut dépoussiérer tout cela, que les théâtres des boulevards connaissent un succès retentissant, le vaudeville, le mélodrame sont les grands genres à l'époque, et il se demande comment faire pour que la Comédie Française continue, puisque c'est sa mission, à être un conservatoire donc du théâtre classique français, de Racine, de Molière, mais aussi de Voltaire ou même de Marivaux. Et en même temps, comment la Comédie Française pourrait-elle attirer autre chose que des auteurs classiques qu'on a évidemment, enfin dit classiques, du début du 19e siècle et qu'on a évidemment oublié. Donc, le drame romantique a déjà franchi la porte de la Comédie Française au moment où Hernani va être monté, puisque, je le disais tout à l'heure, Henri III et sa cour a connu un grand succès, un drame historique, sentimental, un peu mélodramatique de Dumas, a connu un grand succès dans les mois qui ont précédé. Vigny a fait donner aussi sa version d'Othello avec Le Mort de Venise dans l'année qui précédait. Et puis Hugo lui-même, dans l'été qui précède l'hiver 1830, donc à l'été 1829, avait prévu de faire jouer une pièce, Marion de Lorme, mais la censure s'en est mêlée. Donc c'est très vite, à l'automne 1830, qu'il va écrire Hernani et qu'il va faire acclamer, comme on dit à l'époque, sa pièce à la Comédie Française. C'est-à-dire que tous les sociétaires vont accepter de jouer cette pièce une fois qu'elle a été lue par Hugo. Et on en attend évidemment un grand succès.
Donc il faut aussi que le comité du théâtre français se prononce sur Hernani. Et voici ce qu'il décide. Je cite « Cette pièce abonde en inconvenances de toute nature. Le roi s'exprime souvent comme un bandit. Le bandit traite le roi comme un brigand. La fille d'un grand d'Espagne n'est qu'une dévergondée sans dignité ni pudeur, etc. Toutefois, malgré tant de vices capitaux, nous sommes d'avis que non seulement il n'y a aucun inconvénient à autoriser la représentation de cette pièce, mais qu'il est d'une sage politique de n'en pas retrancher un seul mot. Il est bon que le public voie jusqu'à quel point d'égarement peut aller l'esprit humain affranchi de toute règle et de toute bienséance. » Il y a donc une stratégie de la part de ce comité du théâtre français de faire jouer Hernani en se disant que le public va décider que cette pièce n'est pas bonne. C'est ça aussi l'un des tenants de cette fameuse bataille d'Hernani, Olivier Decroix.
Oui, le scandale est évidemment absolument attendu. Les détracteurs de la pièce, qui sont aussi au comité, espèrent justement qu'on va enfin en finir avec ce drame romantique. Parce que Hernani est en quelque sorte un point d'orgue, hein, un aboutissement de ce qui vient de fermenter dans les années 1820, le drame romantique, et on trouve que vraiment c'est trop, c'est excessif. Et avec Hernani, on va se rendre compte, bien sûr, que tout ceci n'a aucun sens. En même temps, les gens sont aussi parfois cyniques et on se dit que le scandale va générer, bien sûr, beaucoup d'entrées, donc du succès et de l'argent. Donc tout est assez ambigu. Mais on reviendra peut-être sur l'identité de ces détracteurs, sur leur aussi sur leur appartenance à un monde qui se conçoit comme étant garant du classicisme.
On peut dire un mot justement à ce sujet dès maintenant, qui sont réellement les détracteurs. Ils sont nombreux en réalité. Tout le monde est contre Victor Hugo, qu'on se réclame du classicisme, mais aussi qu'on se réclame du libéralisme.
Oui, alors d'abord une nuance à faire, c'est que on n'a pas les classiques contre les romantiques, parce que les classiques c'est Racine, c'est Molière, et ceux-là sont admirés absolument par les romantiques, sans aucun doute. Même Stendhal en 1825, quand il publie Racine et Shakespeare, ne nous dit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais nous dit d'en finir avec une opposition qui n'a pas lieu d'être.
Et Hugo dit un petit peu la même chose aussi.
Exactement, dans la préface de Cromwell, il nous dit la même chose. Les tenants du classicisme, donc pour revenir à votre question, sont aussi bien des ultra-légitimistes, hein, des conservateurs qui s'accommodent fort bien de la restauration donc de cette époque politique assez tristounette. Enfin, il suffit de lire Le Rouge et le Noir pour se rendre compte à quel point cette restauration est haïssable. Ultra-légitimistes qui comptaient d'ailleurs Hugo dans leur rang au début des années 1820 et qui voient Hugo s'échapper, hein, de cette pensée, mais aussi, comme vous l'avez dit, des libéraux qui vont quelques mois plus tard, en juillet 1830, emporter le morceau avec les Trois Glorieuses et avec la monarchie de Juillet.
Donc des libéraux qui sont devenus des libéraux simplement en matière économique, mais qui en matière artistique finalement sont à présent des conservateurs.
Qui sont en matière artistique conservateurs parce qu'ils estiment que la Révolution a déjà eu lieu. Elle a eu lieu au moment où le droit à la propriété a été proclamé. Donc, n'oublions pas quand même que la Révolution française proclame le droit à la propriété, ce qui est très important pour les bourgeois libéraux. Et donc, ce qu'il faut pour eux, ce qu'il faut encourager dans l'art, c'est plutôt le progrès. Or, les romantiques, on le sait, sont rétrogrades en quelque sorte, puisqu'ils rêvent d'un monde qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi ils se tournent souvent vers le Moyen-Âge, vers la Renaissance. Dans leurs rêves, justement, ils apparaissent comme, entre guillemets, réactionnaires. Mais ce qui ne préjuge absolument rien de leur implication future, pour certains d'entre eux, dans des combats politiques progressistes. C'est toute la complexité de cette période qui transparaît alors. Et donc ces libéraux, étonnamment, hein, s'en prennent à Hernani lors de la bataille, notamment donc un journaliste libéral qui s'appelle Armand Carrel, dans Le National, et qui nous dit qu'évidemment Hernani, à quatre reprises, il s'y reprend, hein, pour dire que Hernani est un véritable fatras, hein, et que c'est une pièce ridicule.
Mais alors de l'autre côté, il y a aussi bien sûr des supporters de Victor Hugo. Je propose d'écouter le récit par Madame Hugo elle-même de la première d'Hernani à la Comédie Française, où sont donc présents dès le début de l'après-midi les amis du dramaturge.
La porte s'ouvrit à 3 heures et se referma. Seuls dans la salle, ils s'organisèrent. Que faire jusqu'à 7 heures? On causa, on chanta, on dîna. On avait apporté des cervelas, du jambon, du pain. Les banquettes servirent de table. Comme on n'avait que cela à faire, on dîna si longtemps qu'on était encore à table quand le public entra. À la vue de ce restaurant, les locataires des loges se demandèrent s'ils rêvaient. Leur odorat était offensé par l'ail des saucissons. Ceci n'était rien encore, mais sur tant d'hommes. Il y en avait nécessairement qui avaient éprouvé d'autres besoins que ceux de l'estomac. Ils avaient cherché à quel endroit de la maison de Molière on pouvait expulser le superflu de la boisson. Enfermés pendant des heures, plusieurs n'y avaient pas tenu et s'en étaient allés tout en haut dans le coin le plus sombre. Mais ce coin sombre s'était tout à coup éclairé à l'heure du public. On juge du scandale que dut faire cette humidité où passèrent les robes de soie et les souliers de satin. Quand M. Victor Hugo arriva au théâtre, il trouva les employés souriants et le commissaire royal bouleversé. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-il. Il y a que votre drame est mort et que ce sont vos amis qui l'ont tué. Monsieur Victor Hugo regarda par le trou de la toile. On frappa les 3 coups. Pardon, petite parenthèse, à mon avis l'auteur se trompe, à la Comédie Française c'est toujours 6 coups. Fermeture de parenthèse. L'auteur vit lever le rideau avec le serrement de cœur de celui qui livre à l'inconnu sa pensée et peut-être son avenir.
Extrait de Victor Hugo, raconté par un témoin de sa vie, par Adèle Hugo, dans une lecture donc de Guillaume Gallienne. Qu'est-ce que vous retenez de ce récit, Olivier Decroix ? Et est-ce qu'il est juste finalement de parler de la bataille d'Hernani, en faisant référence à ce soir de la première ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de plusieurs batailles d'Hernani, puisqu'il va y avoir des heurts et des troubles dans presque chacune des représentations cette année-là, en 1830.
Oui, en effet, on est ici face à un mythe, hein, le mythe de la bataille d'Hernani, qui a été aussi grandement gonflé par Gautier, Théophile Gautier,
qui était là dans son apparemment histoire. Voilà. Tous les soirs de 1830, à chaque fois qu'il y a eu une pièce.
Aux 39 représentations qui ont eu lieu dans l'hiver et le printemps 1830, avec son gilet rose vif, en fait, qui n'était pas rouge, qui était plutôt rose vif, et qui, plus tard, dans son histoire du romantisme, évidemment, a monté en épingle tout ceci. Mais ce qui est intéressant dans ce mythe, et certains spécialistes se sont penchés sur cette question, ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est d'abord une polarisation. Là, dans la lecture qui était faite par Guillaume Gallienne, ce qui est dit, c'est que les romantiques, à qui évidemment on avait ouvert les portes de la Comédie française bien avant l'heure.
Exprès, alors ça faisait partie de la cabale contre Hernani. Oui. On savait que ça allait provoquer ce genre de troubles.
On savait très bien que les lieux des ans étaient fermés et on savait très bien que quelques heures à manger, à boire, amèneraient évidemment ces jeunes gens hirsutes à faire un peu n'importe quoi. Donc pour revenir au mythe et aux batailles au pluriel d'Hernani, il faut savoir quand même que ce soir du 25 février 1830, le scandale attendu évidemment se produit. Les comédiens sont quand même très dérangés, hein, par tous ces bruits, ces chahuts.
En fait, ils peuvent pas réellement jouer.
Ils ne peuvent pas jouer. Un des comédiens d'ailleurs qui joue le rôle de Don Ruy Gomez tient un journal et puis il commente souvent le soir la façon dont s'est déroulée la représentation. Il faut attendre quand même vraiment la fin du printemps 1830 pour qu'il dise « Je crois que j'ai bien joué, c'était assez calme. »
Et on m'a écouté.
Parce que, précisément, tous les soirs, les gens viennent là pour faire du chahut. Et pourtant, évidemment, tous les soirs, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Hein, entre ce qu'on a appelé les genoux, c'est-à-dire des crânes chauves, avec cette polarisation entre des gens âgés qui seraient les tenants du classicisme et puis les jeunes romantiques, on peut imaginer que tous n'ont pas assisté tout le temps à la même représentation.
Alors on va continuer à évoquer les sources de la bataille d'Hernani et la bataille elle-même avec vous, Olivier Decroix, mais pour l'heure c'est le moment de retrouver la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous, Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui du dossier que le magazine littéraire consacre à Boris Vian.
Voilà, donc il paraît aujourd'hui dans notre numéro de juin. On a consacré ce grand dossier à Boris Vian parce que, eh bien, on croit toujours tout savoir sur Boris Vian, l'écrivain, trompettiste, ingénieur, compositeur, journaliste, interprète et traducteur. Et c'est normal puisque Boris Vian, on le découvre en général assez jeune, avec l'écume des jours. Et puis ensuite, le parcours classique, c'est de passer vers la face noire, ou plutôt la face roman noir de son œuvre, écrite sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Et dès lors, on tend à croire qu'il a occupé de tout temps cette place d'écrivain révéré des jeunes lecteurs. Et en fait, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'existence très agitée de Boris Vian, on se rend compte qu'il a connu des fortunes très diverses. Est-ce que vous saviez, par exemple, Mathieu, qu'on l'avait accusé dans la presse d'être un assassin par procuration ?
Alors oui, parce qu'on a fait une série sur Boris Vian que je vous engage à réécouter d'ailleurs en podcast, mais non, je ne savais pas.
Vous ne savez pas, d'accord. Mais c'est très bien parce que c'était dans François le 4 mai 1947. Voilà, après un meurtre sordide dans un hôtel de Montparnasse, on l'avait trouvé sur le lieu du crime, un volume de « J'irai cracher sur vos tombes ». Ce volume, en plus, était ouvert sur une page décrivant un autre crime. Donc, de là le scandale. Et c'est raconté dans un grand article critique par Claire Julliard, qui est biographe de Vian, et qui revient aussi sur les raisons pour lesquelles Boris Vian écrivit ce « J'irai cracher sur vos tombes » et pourquoi est-ce qu'il le publia sous l'identité de Vernon Sullivan. Rappelons qu'au tout début du canular, en fait, Vian se présentait comme le traducteur de ce livre prétendument écrit en anglais. Et l'article explique aussi en quoi ce double, que l'on prend en général comme la face noire et ricanante de Vian, en quoi ce double nuisit gravement à sa carrière littéraire tout en lui permettant de gagner sa vie, ce qui était un de ses buts.
C'est d'ailleurs un sujet que vous creusez dans un article,
c'est
Fabrice Collin.
Voilà, c'est un article de Fabrice Collin, J'irai cracher sur vos tombes et rarement analysé de près. Je rappelle que ce roman raconte la vengeance d'un homme qui a du sang noir et la peau claire et qui séduit et tue des filles de la bourgeoisie blanche. Voilà, ce roman a fait l'objet d'un procès à l'époque, un procès mené par une ligue de vertu. Et il se trouve que cette ligue de vertu visait juste, puisque lorsqu'on regarde de près le texte de Vian, on voit bien qu'il fait tout, en fait, pour non pas défier la censure, mais l'appeler de ses voeux. Il appuie sur tous les points sensibles du lectorat de son époque.
Pour choquer un maximum.
Choquer un maximum, exactement. Et en même temps, bon, Vian s'est beaucoup défendu d'être Vernon Sullivan avant de capituler. Et le canular était quand même crédible parce que Vian était vraiment traducteur. Mm-hmm. C'est l'objet d'un autre article, un article de Serge Lehmann, qui détaille sa passion très méconnue pour la science-fiction. Ainsi, moi j'avais complètement oublié que la traduction du grand classique de Van Vogt, Le Monde des Nonas, eh bien c'était une traduction de Boris Vian. Et il a aussi signé dans les temps modernes un grand article fondateur qui présente la science-fiction au lecteur français. Et aujourd'hui, en effet, lorsqu'on regarde, par exemple, le livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, qui connaît un grand succès en ce moment, et qu'on critique d'ailleurs dans le magazine, on se rend compte qu'il y a sans doute beaucoup d'influence de Vian à l'intérieur. Voilà. Et puis, comme Vian est aujourd'hui un écrivain universel, on a demandé à plusieurs auteurs de nous évoquer leur Vian. Martin Winkler, qui le voit comme un frère aîné. Geneviève Brisac, qui souligne la rapidité de l'écume des jours. Patrice Pluyette, qui nous renvoie vers l'automne à Pékin. Et puis on termine par une note plus sombre, qui est un grand article de Jacques Duchâteau, qui analyse la présence de la mort dans l'œuvre de Vian et l'érotisme qui s'y télescope parfois. Et des thèmes assez sombres que l'écriture de Vian, souvent pleine d'humour et d'invention, tente à nous faire oublier. Et
voilà, qui nous donne envie de nous jeter sur le dossier du nouveau magazine littéraire dans lequel on retrouve votre signature. À bientôt, Alexis Broca.
Merci Mathieu.
Bien sûr, France Culture, et c'est la compagnie des auteurs au troisième volet d'une semaine consacrée aux œuvres les plus souvent données au bac de français. Aujourd'hui, Hernani et la fameuse bataille qu'a engendré cette pièce de Victor Hugo.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très gêné. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'ai entrepris de vous raconter la première d'Hernani, cette première qu'on a appelée la bataille d'Hernani. C'est un événement, c'est plus qu'un événement, c'est de l'histoire. C'est plus que de l'histoire, c'est une date. 25 février 1830, la date préférée de tous les auteurs dramatiques. Lequel d'entre nous n'a pas souhaité avoir sa petite bataille d'Hernani, avec beaucoup de Théophile Gautier, naturellement. Mais plus on étudie la bataille d'Hernani, plus on est convaincu qu'il est très difficile d'en faire un compte-rendu lyrique, ou grave, ou simplement sérieux. La bataille d'Hernani est une aventure de gilets rouges et de manteaux couleur de muraille, une espèce de répétition générale de cap et d'épée.
Extrait d'une conférence de Marcel Achard. Alors la bataille d'Hernani, Olivier de Croix, c'est le début de quelque chose dans l'histoire de la littérature, d'un nouveau mouvement, d'un changement profond dans l'art dramatique, mais c'est peut-être aussi le point d'orgue d'une histoire qui a commencé bien plus tôt. Et j'aimerais qu'on consacre une partie de cette seconde partie de l'émission à ce contexte. Il faut peut-être rappeler d'abord l'importance du théâtre à l'époque, c'est quand même là que... tout se fait, le tout Paris va au théâtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le contexte à Paris et puis même le contexte politique dans les années qui précèdent la bataille d'Hernani et qui vont d'une certaine façon la provoquer?
Alors, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, le public se déplace en masse pour aller voir, c'est du théâtre populaire, pour aller voir des vaudevilles, pour aller voir aussi des mélodrames. Le vaudeville et le mélodrame proposent aux spectateurs des intrigues assez simples, qui sont en général assez rassurantes, parce que dans un mélodrame, par exemple, le schéma est souvent un peu le même, une jeune fille innocente est la victime d'un traître fourbe, des tas de types de personnages qu'on retrouve dans le drame romantique, si on songe à Ruy Blas, par exemple, dont ça Luste, le traître qui en veut beaucoup à la reine innocente. Dans le mélodrame, l'intrigue aboutit à un retour à la norme, à une punition bien méritée du coupable, du traître, ce qui, évidemment, confère à ce genre-là une forme de manichéisme qui est très rassurant, très réconfortant. Et je crois que, sans entrer donc dans les détails de ce contexte dramatique et dramaturgique de l'époque, ce qu'on peut dire, c'est que ce type de théâtre, pour les, par exemple, les libéraux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont assez conservateurs du point de vue des mœurs, ce théâtre-là est bon pour le peuple. Il est bon pour le peuple parce que il ne fait pas trop réfléchir, parce qu'il divertit. Alors que le drame romantique, et en particulier le drame romantique hugolien, donne un coup de pied dans la fourmilière.
Et pourtant, c'est bien aussi à destination du peuple que Victor Hugo veut s'adresser.
Oui, d'autant plus si on prend en compte le théâtre romantique de Hugo après Hernani. Dans la préface de Lucrèce Borgia, Hugo compare le théâtre à une chair. Il s'agit de s'adresser. Et dans la préface de Ruy Blas, il donne des catégories de spectateurs. Hugo a une claire conscience de la destination de ses pièces de théâtre. Mais avec Hernani, ça n'est pas encore si évident. Ce qui agite Hugo au moment d'Hernani, c'est la volonté, comme il le dit dans sa préface d'Hernani, de disloquer les frontières, de transgresser les frontières.
Ce qui est une forme de démocratisation
l'art.
Quand même de l'art. C'est ça aussi le mouvement de l'histoire de la littérature qu'amplifie Hugo à ce moment-là, parce que en mêlant tous les genres, on désélitise aussi.
Oui. Alors il s'agit, c'est Anne Hubersfeld, la grande spécialiste du théâtre de Hugo, qui le rappelait souvent. Il s'agit donc de lutter contre un théâtre hiératique, rigide, hiérarchique en quelque sorte, ou qui maintient en tous les cas une hiérarchie. Il y a les grands genres, le grand théâtre, la grande tragédie, et puis il y a les petits genres populaires, et puis la comédie n'a rien à faire avec le comique bas, la farce n'a rien à faire avec la tragédie. Et ce que Hugo aime chez Shakespeare, justement, c'est ce mélange qui pour lui est, au contraire du hiératique que j'évoquais tout à l'heure, qui pour lui est démotique, c'est-à-dire que le peuple, qui n'apparaît pas encore vraiment dans Hernani, si on songe à Ruy Blas, oui, Ruy Blas, c'est le valet, c'est le laquais, l'homme du peuple, mais Hernani, lui, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, en vendant la mèche, c'est l'aristocrate. Le peuple n'apparaît que très peu dans Hernani, il apparaît dans le grand monologue de Don Carlos devenant Charles Quint devant la porte du tombeau de Charlemagne, et le roi Don Carlos devenant empereur fait naître cette magnifique métaphore du peuple océan, mais il n'apparaît pas comme un sujet agissant. Pour autant, ce peuple doit se comprendre comme, pour Hugo, doit se comprendre comme le véritable héros de sa sa littérature. À la même, quasiment à la même époque, un an après, Hugo écrit un grand roman, Notre-Dame de Paris, dans lequel le peuple a une place gigantesque. On n'est pas encore face aux misères des misérables, mais ce peuple, effectivement, Hugo ne le prend pas pour ce qu'on pourrait mépriser comme étant une foule. Et il ne conçoit pas son théâtre comme à destination des élites, évidemment.
Est-ce que le romantisme, selon Hugo, et peut-être pas d'ailleurs seulement selon lui, c'est la prise en compte de l'émergence aussi de l'individu dans la société, et même parfois de l'individu contre la société?
Alors, autre problème, qui est évidemment connexe, c'est que dans Hernani, contrairement par exemple à Ruy Blas, 8 ans plus tard, où le laquais qui est déguisé par le fourbe Don Salluste en Grande-Espagne retrouve son identité de laquais, dans Hernani on a le contraire. Hein. C'est un aristocrate qui se fait passer pour un rebelle, tout ce qu'il y a de plus populaire, avant de se redécouvrir aristocrate. Dans Hernani, cet aristocrate Hernani, Doniassol également, ce sont des héros individuels, des individus qui ne sont pas à leur place dans la société dans laquelle ils vivent. Mais ils ne sont en rien représentants d'une collectivité.
Alors que peut-être dans le théâtre classique, c'était différent. Enfin, est-ce qu'il y a là une rupture ou pas ?
Oui, il y a incontestablement une rupture dans la mesure où le héros romantique est plutôt un anti-héros, là où le héros d'une tragédie racinienne, par exemple, et c'est ce qui fait justement le tragique du personnage, a une grandeur admirable. Le héros romantique n'est pas admirable. Doniassol, elle veut suivre Hernani pour aller se faire tuer dans le maquis. Hernani est suffisamment bête pour avoir laissé tous ses camarades se faire tuer. Ce ne sont pas de vrais héros. Et ce sont en revanche des individus perdus dans une société qui les oppresse. Et ce qu'on pourrait appeler un schème romantique est effectivement présent dans la pièce.
Victor Hugo, c'est toujours comme ça. Que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, ça semble naïf et simpliste, et en réalité c'est profond. C'est profond et mystérieux. On ouvre toujours sur ce que, pour reprendre ses propres paroles, on pourrait appeler la bouche d'ombre. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Dès qu'on creuse un petit peu, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. On trouve des étendues, des profondeurs oniriques très, très troubles.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous pensez, Olivier Decroix, de ce que disait en archive Antoine Vitez? Qu'est-ce qu'il appelle, selon vous, la bouche d'ombre? Ça vous parle, cette expression?
Alors, ce que dit la bouche d'ombre, c'est un grand poème mystérieux des contemplations. Vitez et une autre grande spécialiste du théâtre de Hugo, Florence Nogrette, en parlerait beaucoup mieux que moi. Vitez, quand il a mis en scène Hernani, a été très sensible justement à tout ce qui était dans l'ombre. Ce qui est dans l'ombre, pour le dire simplement, immédiatement, ce sont les forces du passé. Ces forces du passé qui, justement, rappellent le poids de la société, l'oppression sociale contre l'individu.
Du passé d'avant la Révolution ou du passé révolutionnaire?
Un passé général, c'est le passé. Pour moi, Hernani est une tragédie de la filiation. Et ce passé, c'est le passé paternel. Un passé qui empêche la jeune génération de se réaliser, comme on dirait maintenant, qui empêche la jeune génération de devenir un héros ou de se prouver à elle-même qu'elle existe. Et ces forces de l'ombre, ou cette bouche d'ombre, Vitesse l'avait justement particulièrement bien mise en lumière avec une idée de génie, hein, qui était ces mains articulées, ces mains en pierre, hein, qui semblaient manipuler les jeunes héros, donc Carlos ou surtout Hernani, dans sa mise en scène. Donc toute cette part d'obscurité, elle est capitale pour comprendre la pièce, à mon sens, qui est une pièce très sombre, et c'est le pessimisme justement de ce drame qui a provoqué un tel scandale et de tels malentendus aussi.
Aujourd'hui, on parle beaucoup dans cette émission de la bataille d'Hernani. Finalement, on en vient davantage à parler de l'histoire à travers cette pièce que de la pièce elle-même. Puisqu'on est dans une semaine à destination des lycéens qui passent le bac, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui cette pièce, et que même très rapidement cette pièce, est devenue célèbre pour ce qu'elle représentait, davantage que pour elle-même? Et est-ce qu'à l'examen, finalement, c'est davantage de la bataille d'Hernani qu'il faudrait parler que de la pièce elle-même?
Alors ça, c'est justement la difficulté de l'inscription de cette œuvre dans un programme de terminale littéraire, autour justement du contexte. Et il me semble que pour aller vite, l'intérêt de penser la bataille d'Hernani en fonction de ce que nous raconte ce drame réside justement dans les raisons du scandale. Hein, on y revient. Les raisons du scandale, je sais pas, moi je serais un étudiant en terminale, je me poserais la question de savoir dans quelle mesure je ressemble ou non à ce très jeune homme, Hernani.
Très jeune homme qui, par parenthèse, était joué lors de la première par des gens plutôt âgés.
Oui, surtout
tous les acteurs étaient très âgés.
Donia Sol, c'était Mademoiselle Mars qui avait quasiment 50 ans.
Oui.
Alors
que Donia Sol doit avoir quoi, 20 ans dans la pièce?
Oui, à peine. Hein, et donc la question que je me poserais, c'est est-ce que je lui ressemble? Pourquoi est-ce que je lui ressemble? Est-ce que je lui ressemble parce que moi aussi je suis une force qui va, c'est-à-dire qui ne sait pas où elle va? Hein, en réalité, dans ce fameux, dans cette fameuse tirade où Hernani représente à Donia Sol tout le danger qu'il y aurait à le suivre, il lui dit finalement qu'il est un peu comme Satan, l'ange déchu, et qui est renvoyé par Dieu aux enfers, et qui ne sait pas très bien où il va. Hein, si je peux me permettre de lire quelques vers, vers restés célèbres, donc à l'acte 3, scène 4, Hernani donc argumente devant Donia Sol et lui dit: mais je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne, tout me quitte, il est temps qu'à la fin ton tour vienne. Il renonce donc à son amour, car je dois être seul. Fuis ma contagion, ne te fais pas d'aimer une religion. Oh, par pitié pour toi, fuis. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi, je suis une force qui va. Agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur faite avec des ténèbres. Où vais-je? Je ne sais. Mais je me sens poussé d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends, et jamais ne m'arrête. Si parfois, haletant, j'ose tourner la tête, une voix me dit « marche », et l'abîme est profond. Et puis il continue sa course et tout alentour évoque évidemment l'enfer. C'est peut-être, pour en court-circuit si je puis dire, un rapprochement qu'il faudrait faire entre ces grands moments lyriques, effrayants, et le contexte de la bataille d'Hernani, c'est autour de ce rapprochement qu'il faudrait réfléchir.
C'est comme ça en tous les cas que vous le travaillez. Je ne sais pas si vous le travaillez avec vos étudiants qui ne sont pas des bacheliers, puisque vous êtes en classe préparatoire, mais c'est comme ça que vous le travailleriez, d'abord par l'identification au personnage, pour ensuite réfléchir.
Pourquoi pas, c'est quand même du théâtre. On nous raconte une histoire, ce sont de très jeunes gens sur scène. Don Carlos, Hernani, Donia Sol ont l'âge d'élèves de terminale, ou peut-être d'hypocagneux ou de cagneux, peu importe. Ils sont face à un vieillard et à des forces du passé qui les oppressent. Donc oui, je pense que c'est important d'incarner un petit peu ce qui est raconté.
Et quelle est la modernité de la pièce aujourd'hui ?
Ben justement, est-ce que la jeunesse, une génération, peut se sentir happée par une force qui l'emporte vers une destination inconnue ? Je crois que c'est quand même quelque chose qui nous touche actuellement et qui nous a toujours touchés.
Le contexte historique, le fait que ce soit en Espagne, ça n'est pas un écran pour les étudiants, pour les élèves ?
Je crois qu'ils font eux-mêmes assez vite la transposition, comme quand ils regardent des séries et où ils, évidemment, même si l'action se déroule en Nouvelle-Zélande, ils arrivent très, très facilement à s'identifier.
Merci beaucoup, Olivier Decroix. Je rappelle que vous êtes professeur au lycée Henri IV à Paris, auteur du dossier et des notes de Hernani de Victor Hugo dans la collection Folio Plus Classique des éditions Gallimard. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Garance Mazelier, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinot et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, nous rendons les copies, alors attention, sur un commentaire de texte de Zola et un sujet de dissertation. Il est encore temps de vous entraîner, les sujets sont en ligne sur le site et les réseaux sociaux de l'émission. Tout de suite, c'est la poésie avec l'élève Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. J'aurais pu citer Paul Claudel pour introduire nos extraits de Valère Novarina. Lui aussi, poète et dramaturge, et même d'une autre façon claudelien. Mais oui, ben Paul Claudel, ça va nous manger nos 3 minutes là. Allez, allez, tout de suite. Valère Novarina, entrez dans le théâtre des oreilles. Extrait du théâtre des paroles. Il se mettait souvent à la limite de l'ombre et de la lumière, avec la lumière qui avançait sur le papier à la même vitesse que la ligne écrite. Il reprenait chaque jour les exercices de descente, la traversée circulaire. Il ne repartait jamais de l'endroit où il était parvenu la veille, mais toujours plus avant, toujours plus en arrière, plus antérieurement au point de départ. En reculant, en sautant à l'envers, il inscrivait ses paroles, non pour s'élever au-dessus d'autrui par la lecture, par la pensée, par la langue française maîtrisée, mais pour descendre dessous, toujours aller plus bas, descendre sa passion descendante comme une descente manipulée, comme une passion qui lui a crevé les yeux. Extrait de La chair de l'homme aux éditions Paul, P-O-L, L'avant-dernier des hommes. Entre celui qui porte ici sur moi sa pancarte de Jean sans nom. Ma mère m'appela de ce nom, Jean sans nom, pour faire fuir devant moi mon père Josue Babel et que je devienne présent en son absence et le poursuive de la pancarte de son nom que je porte toujours à mon cou. Il le fait. Extrait au passage d'un texte de Valère, le théâtre n'est pas une antenne culturelle pour la diffusion orale des littératures, mais l'endroit où refaire matériellement la parole mourir des corps. L'acteur, c'est le mort qui parle, c'est son défunt qui m'apparaît. Retour à la chair de l'homme, il parle à un gant, le ramasse et le jette. « Raconte, gant que voici, dis-les de toi-même si tu les oses, les souvenirs de la buanderie vue à l'école de Trotton, Trottignon, la scène du carnaval d'action qui avait lieu dans la maison, la classe de la dame de danse remplacée par la maîtresse suivante, la nommée dame Irénée Polichon, refermée maintenant sous une partie de la terre qui la précéda, redit la poursuite lancée à la recherche de la fuite du petit Blaisiot, sa vie en minitude, son militaria, son pouf, son demi-pensionnat, son trou au pif repeint, Son apogée en huitième mixte, sa mort survenue au sud du couloir B, sa sortie in extremis et sa rechute sous son exécution pendant que nous avions pour apôtre l'apôtre Émiliandre de Liliandre, puis sa renomination par l'enfant de Palpus, son neuvième mariage victorieux en gare de Berne, sa vie à Borne restante, sa fugue en lui-même, son utilisation en homme, sa rumination en homme, sa survie en homme suivie de sa sortie par le partant suivant, puis le mois précédent, son élongement, le Maccabia, l'indifférence des gens à sa cause tenace, sa tête muette et son silence partout devant la plupart. Parmi cette liste dont les déchets ici présents et renaissants me désignent aujourd'hui l'emplacement de sa tombe. Un homme marchant parmi ces détails survivrait-il à son corps? J'en doute. Et je le redis aujourd'hui à l'Assemblée des médecins que voici.
Jacques Bonnaffé avec donc la suite de cette semaine intitulée « L'étonnement d'avoir des mots » autour de Valère Novarina.